Livres, BD,
films, musique,
jeux, spectacles.
Tu cherches, tu hésites, tu manques d'idées?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes
sur Radio Barthès 107 FM. Bonjour, nouvelle émission du Chaudron des Découvertes. Aujourd'hui, ça va partir un peu dans tous les sens. À l'image de mes dernières semaines, passées à voyager en terre ligérienne et finistérienne et à faire toutes sortes de rencontres. Bon, donc un épisode un peu bric-à-brac. Mais voilà, pour commencer, un petit flashback personnel. J'ai un très mauvais souvenir d'une activité dite de loisir, un truc qui se faisait pas mal à une époque. Je veux parler du canevas. Vous voyez ? Au départ, un dessin assez laid qui représentait des fleurs ou des scènes de chasse. Bref, un dessin dont ensuite on devait remplir les petits trous de fil de laine pour en faire une tapisserie un peu kitsch. Tout ça pour vous dire, j'ai revisé ma copie. Parce que, voyez-vous, j'ai démarré mon road trip en m'arrêtant à Aubusson. Ça vous parle, Aubusson ? La Creuse, un peu comme la Lozère. Très peu d'habitants au kilomètre carré, mais tout de même, Aubusson, capitale de la tapisserie. Et même cité internationale de la tapisserie. Patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La tapisserie à Aubusson est une histoire qui date du XVe, en passant par l'année 1939 avec la venue de Jean Lursa, qui va initier les très grandes tentures. La Cité internationale de la tapisserie est donc un musée qui engrange depuis 2016 des collections du XVe au XXIe siècle. 5000 m2 d'expo, un centre de formation, et puis malheureusement, dans les années 80, le secteur est en crise. C'est alors que le musée fait le pari de l'innovation et de la modernisation. Bon, là, je frime un peu, parce qu'en fait, la Cité internationale de la tapisserie est fermée pour travaux jusqu'à fin décembre. Je me suis ratée de peu, mais des amis y sont allés et sont revenus enchantés. Car figurez-vous qu'entre autres, il y avait une exposition sur l'imaginaire de Hayao Miyazaki. Magnifique. Par contre, j'ai quand même pu visiter une exposition dans le Centre culturel Jean Lursa d'Aubusson. Une exposition intitulée « Aubusson tisse Tolkien ». Et là, envolé les mauvais souvenirs de canevas. 14 tapisseries d'environ 2 mètres sur 3, inspirées d'aquarelles et de dessins de Tolkien. Tolkien, vous situez ? Ronald Reuel Tolkien, auteur de Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. Et c'est son fils, Christopher Tolkien, aujourd'hui décédé, qui a entretenu et valorisé l'œuvre de son père. L'exposition puise dans 4 éléments de la production littéraire et graphique de Tolkien : les lettres du Père Noël, le Hobbit, le Seigneur des Anneaux et le Silmarion. Les lettres du Père Noël sont des cartes que Tolkien offrait à ses enfants et qui comprenaient des illustrations sur ce thème. Et le Silmarion est une œuvre publiée à titre posthume par son fils. Ce fut un travail gigantesque, 10 années entre les pourparlers et la finalisation du projet, dont 4 années de tissage. Je vais vous lire ce qui donne comme information quand on rentre dans ce musée. Le point de départ de cette tenture tolkienne est un ensemble d'aquarelles et dessins originaux du célèbre auteur, conservés à la Bodleian Library d'Oxford et dont la plupart ne mesurent qu'une 20aine de centimètres de côté. C'est tout le savoir-faire aubussonné que de réussir la transposition de ces petits formats en œuvres tissées de plusieurs mètres carrés en respectant les œuvres originales. Le parti pris, créer une tenture dans l'esprit de l'époque d'origine des illustrations. La première étape consiste à déterminer les formats finaux de chaque tapisserie, leur écriture technique, les gammes de couleurs des laines pour créer l'unité de la tenture tout en respectant les œuvres originales. Vient ensuite la réalisation des cartons de tapisserie, servant de guide aux artisans lissiers pendant le tissage, à l'échelle des futures tapisseries. C'est un savoir-faire aubussonné qui est en place depuis un demi-millénaire. C'est le travail du cartonnier, il va transcrire l'œuvre, et ce n'est pas simple, un simple agrandissement. Les lissiers racontent souvent cette anecdote. Vous partez d'une rose qui est minuscule sur le dessin. Si vous l'agrandissez bêtement sans réfléchir, vous vous retrouvez avec un chou. Il faut retravailler l'agrandissement à mesure pour retrouver l'esprit du dessin original. Un ensemble de paramètres techniques doivent être pris en compte, notamment le matériau même de la laine qui absorbe la lumière et implique que les couleurs doivent être montées en saturation au moment de la teinture pour obtenir des couleurs aussi éclatantes sur les tissages que sur les œuvres originales. Donc voilà ce qu'en dit le musée, et j'avoue que j'étais assez subjuguée par cette expo. C'est vraiment magnifique. Et ce qui est vraiment très impressionnant, c'est bien sûr les tapisseries, mais ces fameux cartons qui sont immenses et qui ont une multitude de petits chiffres qui, en fait, correspondent à chaque fil de laine. Magnifique. Et ce qui est aussi intéressant dans cette exposition, c'est que des jeunes pas franchement intéressés par la tapisserie traditionnelle franchissent le pas et découvrent cet art et ce travail incroyable. Alors, pour cette expo sur Tolkien, malheureusement, c'est fini. Je pense qu'elle va continuer ailleurs, sans doute un petit peu à Paris, et puis elle rejoindra Oxford, qui est la patrie de Tolkien. Donc là, il faudra voyager si vous voulez la voir. Par contre, la Cité internationale de la tapisserie, elle, va rouvrir en janvier, et il y aura toujours Miyazaki. La deuxième station de mon voyage était Nantes, où vivent des personnes que j'aime beaucoup, qui ont une belle bibliothèque et un stock très intéressant de BD. Ils m'en ont proposé deux. Je vais donc commencer par vous parler d'une BD intitulée « Tant pis pour l'amour » de Sophie Lambda, aux éditions Delcourt 2019. Sophie Lambda est le pseudo d'une illustratrice autodidacte née en 86. Son parcours l'a amenée à faire de nombreux petits boulots avant de reprendre des études. Et c'est en parallèle de ses études qu'elle a commencé un blog BD pour finir par se lancer dans l'illustration à plein temps. Le sous-titre de sa BD est « Ou comment j'ai survécu à un manipulateur ». Ce récit est inspiré de sa propre histoire et ce n'est pas vraiment glamour, sauf que si, bien sûr, au début, c'est un coup de foudre, l'amour fou. Elle dit « On était des enfants lumineux, les villageois ignorants qui dansent au milieu du champ de bataille des tristes pierres amorphes du quotidien. » Ou encore « Les mots que j'attendais, ils me les donnaient fois mille et ceux que je n'attendais pas, encore plus. Ils réactivaient mon enfance. Je me sentais toute neuve, c'était comme si je n'avais jamais connu la douleur. C'est donc le meilleur des mondes. Et puis, bien sûr, des petits coups de canif vont commencer à griffer ce nuage de félicité. Et des réactions inattendues et peu amènes de son compagnon vont apparaître. Ce n'est pas très méchant au départ, mais ça commence à mettre un doute et ce doute la touche profondément. D'autant que les premières colères de son amant vont être, entre guillemets, compensées par un discours de victime. Ainsi, par exemple, après une scène où il la soupçonne de draguer d'autres hommes, il lui fait un sketch, il lui dit larme à l'œil, J'ai juste peur, tu vas rencontrer quelqu'un et partir, ça finira comme ça. Moi, j'appelle ça faire le caliméro. Et les relations entre elle et son amant vont faire osciller ce qu'elle appelle son baromètre d'ego, qu'elle dessine sous forme d'une petite machine ronde, scindée en deux, avec un côté rouge et un côté vert, et une aiguille qui va passer d'un côté et de l'autre au gré de ses émotions. Parce que, peu à peu, des mensonges vont la faire douter. D'autant que l'homme, quand il est démasqué, va trouver des justifications qui la mettent, elle, en cause. Et les mensonges concernent les relations de son partenaire avec d'autres femmes. Mais également, ils falsifient la réalité. Ainsi, par exemple, après une crise de colère de celui-ci, il lui renvoie le lendemain le fait que c'est elle qui a fait une crise de jalousie. Et comme cette relation en dents de scie est perturbante et fatigante, elle finit par ne plus savoir où elle en est et se culpabilise. Elle dit « C'est un ascenseur émotionnel répétitif très violent qui moralement affaiblit énormément. » Bref, elle est entrée dans un système pervers qui la démolit petit à petit et aussi qui l'isole. Il y a donc son récit. Et par ailleurs, des références à des auteurs qui ont travaillé le sujet. Pour exemple, sont évoquées les notions de manipulateur, pervers narcissique, vampire psychique. Je cite « N'étant capables de voir le monde que via le prisme de leur ego, les manipulateurs ne peuvent même pas entrevoir la peine des autres parce que, face à la douleur de l'autre, ils réagissent très mal et l'interprètent comme une attaque personnelle. Je cite encore, le manipulateur possède un talent naturel pour le mimétisme comportemental, ce qui explique qu'on a l'impression de rencontrer son âme sœur. Ce thème délicat et assez angoissant, étant présenté sous forme de BD, on y rentre assez facilement. Le graphisme est très expressif et nous fait parfaitement comprendre les sentiments de l'autrice. De plus, elle a introduit un personnage clé et plein d'humour, la peluche Nicolas, rescapée de son enfance, et qui fait des commentaires pertinents et drôles sur la situation, ce qui rend le récit vivant et surtout plus accessible. C'est un ouvrage conséquent, 300 pages, car si fort heureusement elle arrive à se sortir de ce pétrin, c'est tout de même lent, laborieux et avec des risques de rechute. Il y a donc toute une partie sur sa reconstruction. Voici ce qu'elle dit. Il avait su où toucher, où remplir, où lisser. De fait, il m'avait donné l'impression très vite de donner un nouveau sens à ma vie et s'était rendu indispensable à mon bonheur. Le quitter impliquait donc aussi de découvrir ses brèches, de m'exposer de nouveau à ce vide. Et surtout, il y a ce qu'elle appelle le « hovering », traduction aspirée, une technique utilisée par un manipulateur pour reprendre le contrôle sur la victime qui s'échappe. Et bien sûr, la question que se pose l'autrice, c'est « pourquoi moi ?» Ce qui va l'obliger à se regarder et à accepter ses failles. La fin est pleine de références, de conseils, d'associations, de sites et de numéros de téléphone. Donc une BD assez autobiographique est nécessaire et surtout bien faite. Et d'ailleurs, l'autrice explique dans une interview que pour elle, c'était une urgence et une nécessité thérapeutique. Et c'est en se plongeant dans des livres concernant ce sujet et qui l'ont aidée qu'elle a pensé que par le côté plus léger de la BD, qu'elle serait utile à plein de gens. Et je crois, mission accomplie. La seconde BD aborde alors un tout autre univers. Il s'agit de « En silence » d'Audrey Spiry, qui date de 2012. Audrey Spiry, née en 83, a fait des études à l'École des arts appliqués. Elle a travaillé dans l'animation, puis a fait de la peinture, des illustrations, des affiches, des décors et des courts-métrages. « En silence » est son premier album qui lui a pris 2 ans et demi de travail. Peu de textes, mais un graphisme extraordinaire, une explosion de couleurs. Tout d'abord le récit. Juliette, jeune femme qui vient de finir ses études et se cherche un peu, part faire une journée de canyoning avec son compagnon, et également un couple et leurs 2 filles, et aussi un animateur. Il y a un autre personnage important, c'est l'eau. Cette journée de canyoning va être un enchaînement d'événements et de situations plus ou moins périlleuses et être source d'un déclic pour Juliette. Mais je ne vais pas vous en dire plus et je laisse la parole à 3 personnes qui, chacune à leur manière, m'ont transmis leurs impressions. Alors, d'abord Robert, que vous avez déjà entendu sur cette antenne, voici ce qu'il dit. Cette BD pourrait se passer de bulles. Les visages, les corps, les paysages, les couleurs, les formes expriment toute la tragédie. C'est une histoire de femme qui se révèle ou se réveille. La présence des enfants, filles, aide à comprendre. C'est parfois angoissant où les visages et les corps se transforment. On va du blanc au noir en passant par toutes les couleurs. Il y a 2 personnages au centre, la femme et l'eau. Alors, voici maintenant ce que Carolina m'a dit de cette BD. J'ai essayé de transcrire au plus près ce qu'elle m'a dit et de ne pas trahir son discours. Voici ce qu'elle dit. C'est une lecture que j'ai faite il y a longtemps, donc ça va me marquer plus. J'ai des souvenirs des couleurs et plus d'une atmosphère que des histoires en tant que telles. Ça a touché plus mes sensations et mes émotions. En silence, a consacré vraiment cette atmosphère de silence, d'oppression, de solitude, mais une solitude accompagnée tout le temps avec des bruits autour. Il y a les bruits de la famille, les bruits de la nature, les craquements, la chaleur, ces bruits qui font les couleurs. Et en même temps, le silence, des petits moments où il manque aussi de souffle. C'est le silence beaucoup lié pour moi à l'eau. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui connaît beaucoup le milieu aquatique de l'eau. Et ça me fait penser, et je suis un peu jalouse, au pouvoir que l'eau peut donner. Cette opportunité, cette atmosphère d'être en soi-même et arriver à faire une boule tout comme dans le ventre maternel. C'est l'histoire d'une fille qui traverse sa vie de couple, de famille. Comme c'est entouré d'eau, c'est comme une renaissance. Tout commence avec un voyage et tout finit en mouvement. 2 ans plus tard, elle a complètement changé et elle fait les choses toute seule. Et maintenant, voici ce que Thibaut m'en a dit. J'aime beaucoup cette BD car elle m'agrippe dès la première page et m'emmène dans son univers, l'eau, la couleur et la lumière qui vont nous suivre durant toute la lecture. Il y a des passages où l'on ressent clairement la sensation du soleil qui illumine de toute sa force. On ressent la chaleur, mais on ressent aussi le froid avec le vent au début de l'histoire, avant qu'il ne s'engouffre dans cet univers aquatique qui va devenir l'élément principal jusqu'à la fin. Cette dualité ombre-lumière, on la ressent tout le long du récit. Elle démarre lorsqu'ils descendent la falaise en marchant le long des arbres dans une zone sombre. On entre alors dans une phase plus ou moins surréaliste, où l'on a la sensation qu'il marche clairement sur les arbres à l'horizontale. Cet aspect surréaliste et parfois onirique, on le retrouve dans les scènes sous l'eau. On ne sait plus ce qui est vrai ou faux. On ne sait plus si l'héroïne vit réellement ce que l'on voit ou s'il s'agit d'un rêve. On passe alors de phase sous l'eau à hors de l'eau, et parfois les phases sous l'eau sont assez glaçantes. On ne perçoit plus le fond, c'est le noir total, et cela ajoute à l'angoisse que vit le personnage lorsqu'elle est seule ou perdue. Voilà, merci à tous les trois de m'avoir donné ces commentaires. Pour finir, tous ont dit que plusieurs lectures étaient nécessaires. Pour moi, c'est fort en couleurs, en mouvement, en images, décors, et surtout, il y a un travail très original sur les états du corps. Et bien que je n'en sois pas fanatique, elle a utilisé la palette numérique, mais avec effet gouache, et ça marche. Et puis, le ressenti. On est vite happé par l'histoire. C'est une BD qui pousse à la réflexion. Vraiment, un bel ouvrage. Eh bien, je vous souhaite de belles rencontres BDistes et à bientôt.
Livre, BD,
film, musique,
jeu, spectacle.
Tu cherches? Tu hésites? Tu manques d'idées?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes
sur Radio Barthès 107 FM.